qui était une capitale appartenant à une tribu extérieure, à un peuple extérieur, et donc qui n'était la capitale de personne, qui peut devenir la capitale de tout le monde, même si après ça n'a pas été vrai. On considère que, malgré les tensions qui ont toujours été présentes entre les tribus du Sud, surtout la tribu de Juda et de Benjamin, Bethléem, et les autres tribus qui sont au Nord, on considère que malgré les tensions, il y a eu pendant 70 ans, probablement un royaume uni. Il y a une vraie question là-dessus. Parce que les historiens disent, est-ce qu'il n'y a jamais eu une véritable union ? Et est-ce qu'au fond, le royaume uni, ce n'est pas plutôt projeter dans l'avenir l'idéal vers lequel on tend et auquel on ne parviendra jamais, et que le roi Josias, dont je vais parler, au 7e siècle, essaiera vainement de reconstituer. Voilà. L'histoire veut qu'on dise qu'il y a eu un temps d'union. En tout cas, la tension a demeuré, et dès 930, il y a séparation assez violente entre deux tribus du sud, Juda et la petite tribu de Benjamin, autour de la capitale Jérusalem, qui est restée la capitale de David, et les 10 autres tribus du nord qui n'avaient pas pendant longtemps de capitale. Au sud, c'est un descendant, un fils de Salomon, Roboam, qui a poursuivi la dynastie davidique, et la dynastie davidique va tenir le coup pendant, comptez, de 930 à 600, à peu près 300 ans, un peu plus, et au nord, on ne va pas avoir de descendant de David, mais c'est un des généraux, un des finalement chefs de guerre du descendant de David qui va se séparer et fonder lui-même une dynastie. Alors, on va avoir deux royaumes très différents qui vont en fait disparaître l'un après l'autre. Et je vous parle d'abord du royaume du Nord. Le royaume du Nord, il faut se méfier. Ce royaume du Nord, donc vous voyez, a pris le nom de royaume d'Israël, en même temps qu'on parle souvent du royaume du Nord. Royaume d'Israël, ça veut dire qu'il y a une grosse ambiguïté sur le nom Israël, qui est le deuxième nom du patriarche Jacob, et donc c'est bien un patriarche du Nord, mais il y a une grosse ambiguïté, parce que lorsqu'on dit Israël, on peut dire deux choses. Soit on dit le royaume du Nord, par opposition au royaume du Sud, royaume de Juda, capitale Jérusalem, ou bien on dit l'ensemble des deux royaumes, et finalement, quand le royaume du Nord aura disparu, Israël ne désignera plus que ce qui reste. Ça marche ? Donc il y a toujours une petite ambiguïté qu'il faut parfois lever. C'est à la fois précisément le royaume du Nord à l'opposé du royaume du Sud, c'est au contraire plus largement l'idée qu'on se fait du peuple uni qui croit au même Dieu qui va être proclamé le Dieu unique. Ça marche ? Voilà. Ce royaume du Nord, il ne va pas durer longtemps, de 930 à 721, ça fait quand même 200 ans, et il va être marqué par plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas de dynastie, puisque c'est un pronunciamento, c'est un général qui est parti, et il va y avoir sans arrêt des coups d'État, des espèces de révolutions de palais avec meurtres, assassinats, etc., dans ce royaume du Nord, donc la succession de plusieurs petites dynasties. Celle d'Omri, notamment, qui a laissé des traces dans les annales égyptiennes, dans les annales assyriennes, très peu dans la Bible, et celle de Jéhu, qui va laisser plus de traces dans la Bible. On est documenté sur ce royaume du Nord, puisqu'on a cette stèle qui date fin du 9e siècle, début du 8e siècle, où l'on voit le roi Omri, ou un de ses fils, puisque tous les descendants d'Omri, pendant quelque temps, et même la suite des rois vont s'appeler des Omrides, dans les annales assyriennes. On assimile toujours à des descendants d'Omri, même quand c'est des autres. Vous l'avez à genoux devant, la tête contre terre, caractéristique avec son bonnet pointu et sa barbe. Voilà. Et il est en train de faire allégeance au roi d'Assyrie, qui est un Sennachérif quelconque, un Salmanassar quelconque, voilà. Et donc, on a là une trace claire du fait que les Omrides, la dynastie d'Omri était bien à la tête du royaume du Nord, que les Assyriens non seulement les connaissaient bien, mais les avaient largement vassalisés et ne leur laissaient la paix qu'à condition qu'ils payent tribut. Ça marche ? Après la dynastie d'Omri, on aura au milieu du, je sais pas, début du 8e siècle, une dynastie dite de Jéhu qui était tout aussi sanglante que l'autre. Ils ont passé leur temps à s'entretuer. Mais ceux-là ont fait une petite réforme religieuse, demandant qu'on revienne à l'adoration au culte du Dieu d'Israël, Yahvé, et donc la Bible préfère de beaucoup Jéhu à Omri. Bon. On voit toujours l'histoire de son point de vue, hein, et on n'a jamais coïncidence entre les annales assyriennes et le point de vue de la Bible. Ce royaume est caractérisé par sa richesse économique. On est dans le nord, Samarie et Galilée, il y a donc des plaines, elles sont cultivées, et on a des grandes propriétés qui s'étendent énormément. Voilà. Et donc, les grands propriétaires sont ces gens que fustige Amos. On a parlé du prophète Amos, qui ne s'intéresse qu'à, au fond, le luxe, leur plaisir, et à exploiter les pauvres gens, et qui font peser, au fond, sur le royaume une menace assez lourde. Puisque, insouciants, ils payent à la Syrie, et au fond, ils vont en devenir non seulement les vassaux, mais les victimes. Alors, il y a des tas d'histoires assez compliquées. À un moment donné, quand même, un des rois de ce royaume du Nord a voulu se soulever contre le pouvoir assyrien. Ça, c'est vers 740. Il est allé faire alliance avec les gens de Damas. Et ils sont allés dire au roi du Sud, et on en entend parler dans le livre d'Isaïe, ils sont allés dire au roi Akaz, qui était un roi du Sud, « Viens avec nous, on va se battre contre les Assyriens. » L'autre prudent a dit non merci. Et au contraire, est allé vendre la mèche aux Assyriens. Alors le prophète Isaïe râle en disant « N'aie pas peur, ne crains pas. » Et c'est là qu'il annonce l'Emmanuel, un nouveau roi. Qui va. Voilà. Mais on voit qu'entre les deux royaumes, ça allait très mal, en fait. Il y avait des choses communes, et notamment un dieu commun, mais il y a eu des guerres. Il y a eu des trahisons, c'est une tension très très forte entre les deux royaumes. C'est ce qu'on a appelé la guerre Syro-Éphraïmite avec un nom impossible. Syro parce que c'est le royaume de Damas, et Éphraïmite parce que le royaume du Nord prend aussi le nom d'un des fils de la tribu de Joseph, Éphraïm. Et ils se sont battus contre le Sud. Voilà. Je vous donne le nom si jamais vous le rencontrez, mais bon, à vue humaine, il signifie rien. En tout cas, avec ces guerres, malgré ces guerres, ces soulèvements, qui n'étaient d'ailleurs pas intelligents, parce que s'ils avaient fait profil bas, ben, ils payaient l'impôt et tout allait bien, les Assyriens en ont eu assez, ont fini par s'approcher de plus en plus, et en 721, par prendre Samarie, la capitale de ce royaume, capitale qui n'est pas très ancienne, elle avait un siècle et demi, pas plus. Elle avait été fondée un siècle et demi avant. Prendre Samarie et procéder à ce que je vous ai déjà décrit ce matin, une véritable déportation de la population. Mais réel, hein. Ils ont ramassé tout le monde, sauf les quelques-uns, les plus lettrés, les plus malins, qui s'étaient enfuis dans le royaume du Sud, en emmenant avec eux leur tradition, et notamment la tradition de Moïse. Ça va ? Voilà. Alors, dans ce royaume du Nord, qui pourtant qui a quand même duré 200 ans, on voit apparaître, et c'est ça qui est passionnant, les premiers grands prophètes écrivains. Il y a d'autres prophètes dans la Bible, dans le livre de Samuel et des rois, le prophète Nathan qui va parler à David. On a le prophète Élie et le prophète Élisée au cours du 8e siècle. Mais c'est des prophètes dont on raconte l'histoire, mais dont on n'a pas les oracles. Là, on a des prophètes dits écrivains, qu'ils écrivent eux-mêmes ou qu'ils dictent. En tout cas, on a des prophètes dont on a des oracles, qui ne couvrent pas tous leurs livres, mais dont certains sont clairement datés de cette époque-là. Et cette époque, c'est 740 avant Jésus-Christ, entre 750 et 721. Ça va ? Les deux prophètes les plus célèbres de cette époque-là sont ce qu'on appelle les petits prophètes, mais ils sont petits que par le nom et le nombre de chapitres, Amos et Osée. Le prophète Amos, vous commencez à avoir compris son style. C'est celui qui tonne contre les meurtres, l'injustice, les viols, les vols des grands propriétaires du Nord qui annoncent avec force la menace assyrienne et qui, au fond, fait résonner un « c'est trop tard, ils se conduisent trop mal, ça va mal finir ». Qui sait que ça a mal fini ? Mais on a mis à la fin de son livre, et ici ou là dans son livre des oracles d'espérance. Le prophète Osée, un petit peu après, vers 730, je dirais presque le contraire d'Amos. C'est un prophète étonnant, dont le livre commence par ce geste prophétique. Il raconte que Dieu lui a dit d'aller épouser une femme qui se prostituait. Et donc, qui va le tromper sans arrêt. Comme geste montrant, au fond, l'amour et la souffrance de Dieu pour son peuple, qui passe son temps, évidemment, à changer de Dieu et à se prostituer, dit la Bible, avec les cultes de la nature, les Baals, à être idolâtre. On a beaucoup discuté pour savoir si ce début d'Osée, qui est magnifique, sur un Dieu passionnément, éperdument amoureux d'une femme indigne et qui finit par lui dire « Je t'emmène au désert et là je te recréerai, je te fiancerai avec moi à nouveau. » Ce Dieu passionnément amoureux, est-ce que cette histoire est purement symbolique ou est-ce que c'est vrai ? Est-ce que Osée a vraiment dû faire une chose comme ça ? Actuellement, et je suis un peu d'accord, on penche pour dire « oui, les prophètes n'étaient pas seulement des gens de la parole ». On a tout le temps des actes prophétiques. Les prophètes étaient des gens qui, comment il faut dire, incarnaient dans leur vie, au fond, ce qu'ils considéraient comme l'ordre que Dieu leur donnait pour faire signe à leurs contemporains. Attention, un prophète, c'est jamais Madame Soleil. Il n'annonce pas l'avenir. Amos peut annoncer, au fond, l'arrivée des Assyriens, parce que il suffisait d'avoir deux gouttes de bon sens politique pour savoir que ça allait arriver. Voilà, c'était clair. Isaïe aussi annonce des choses, mais de toute façon, quand les ennemis plus que nombreux sont aux portes de Jérusalem, c'est pas difficile de dire qu'il va y avoir un siège. Voilà. Mais les prophètes n'annoncent pas. Les prophètes, ils dénoncent. Ils dénoncent ce qui ne va pas, sans arrêt. Et dénonçant ce qui ne va pas, ils tirent les conséquences des actions malfaisantes, cruelles, et de l'abandon de la loi de Dieu par les hommes. Voilà, on tire les conséquences. Les conséquences ne sont pas joyeuses, mais ce n'est pas la faute des prophètes. Et donc les prophètes, qu'on dit toujours, c'est un prophète de malheur, n'annoncent pas le malheur, mais ils dénoncent ce qui ne va pas et qui conduit, parce que ce sont aussi souvent des gens, des politiques, Jérémie était dans l'orbite royal, Isaïe était un grand conseiller du roi, qui ont une analyse politique de la situation, ce qui ne va pas et qui conduit au désastre. Ça marche, ça ? On voit apparaître dans ce royaume du Nord, avec les prophètes, aussi des traditions qu'on va appeler les traditions du Deutéronome. Je vous ai dit qu'il y avait à la fin du livre d'Osée l'apparition du patriarche Jacob comme déjà un patriarche local honoré, mais comme quelqu'un dont on se méfie, dont on se défie, parce qu'on veut insister sur le fait que le véritable porteur, le véritable prophète de la loi de Dieu, c'est Moïse. Et que c'est la loi de Moïse qui doit régir, au fond, les destinées du peuple et non pas tel ou tel sanctuaire attribué à Jacob ou à un autre. Ça va ? Et donc, on a vraiment une espèce de mise en cause de Jacob. Et au contraire, c'est par un prophète que Dieu a sauvé son peuple. Et dans le Nord, il semble bien que se sont développées les traditions qui ont donné après le livre du Deutéronome, qui est ce livre des grands discours de Moïse, le cinquième livre de la Torah. Ce livre du Deutéronome, en fait, il va se manifester, on va le voir apparaître, dans le royaume du Sud. Mais il vient de ces lettrés, de ces gens qui entouraient probablement les prophètes dans le royaume du Nord et qui se sont enfuis à temps, en emportant avec eux leurs traditions et leurs textes. Ça marche ? Et donc, on a déjà mis en place, avec ces prophètes, ces traditions du Deutéronome dans le Nord, les deux grands volets de la foi d'Israël qui sont indissociables, la fidélité au Dieu unique, qui va être le principe même du décalogue et du chemin Israël, en Deutéronome 6, « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un ». Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. et c'est le corrélat indispensable, la justice envers les faibles, les pauvres, la veuve, l'orphelin, l'immigré, l'étranger. Ça va toujours de pair et c'est les deux versants du décalogue. Ouais. Le monothéisme et l'éthique, que vous disiez tout à l'heure, on dit parfois que la foi juive est un monothéisme éthique qui se vérifie dans l'obéissance à la loi de Dieu. C'est déjà en place dans ces prophètes très anciens et dans les traditions du Nord. Ça marche ? Oui ? Question ? D'où vient le nom du Deutéronome ? Deutéronome, c'est la deuxième loi. Ces noms sont des noms grecs. Dans la tradition juive, le Deutéronome ne s'appelle pas du tout le Deutéronome. Le Deutéronome s'appelle Bemidbar dans le désert. C'est Dieu qui parle, enfin Moïse qui parle dans le désert. Par le premier, les nombres, c'est Shemot, les noms. Les livres juifs portent comme nom pour la Torah les premiers mots de chaque livre. Bereshit pour la Genèse, etc. C'est la traduction grecque qui leur a donné des noms. Donc on descend bas, vous voyez. On arrive au 3e siècle avant Jésus-Christ, début 3e. C'est la traduction grecque qui va leur donner des noms grecs que nous avons conservés jusqu'aujourd'hui. Mais qui, étant des noms des livres grecs, ont surtout devenu des noms de la Bible chrétienne. Alors, Deutéronome, c'est la deuxième loi, puisque les lois du Deutéronome reprennent le décalogue. En fait, ils sont probablement antérieurs, hein, mais ce n'est pas grave. Correspondent, en tout cas, et apparaissent dans le livre après comme la reprise du décalogue et comme des lois qui, en partie, reprennent des lois de l'Exode, mais sont beaucoup plus des lois sociales. Donc, deuxième livre de la loi. On recommence. Ça va ? Bon. Alors, en 721, le royaume du Nord disparaît, exit. Il ne réapparaîtra jamais. Il ne réapparaîtra jamais que très très tard, sous la forme de la Galilée à l'époque romaine. On va voir que le roi Josias, un roi du Sud, va essayer de pousser vers le Nord et qu'il y aura toujours en Israël cette espérance d'un retour, de reprise. Mais de toute façon, les populations qui ont été installées ne sont plus des populations israélites. Les Assyriens ont amené d'autres peuples qui ont d'autres dieux. Comme ça, ils ont calmé le jeu. D'accord ? Et donc, ce royaume du Nord disparaît et va réapparaître avec des liens, avec le retour de certains, beaucoup, beaucoup plus tard, à l'époque romaine, avec la Samarie. La Galilée et la Samarie, qui vont être des régions du Nord où la foi au Dieu unique, les gens du Sud sont venus s'y installer, enfin il y a eu plus d'échanges, où la foi au Dieu unique est présente, mais où un conflit très fort, à cause d'un autre sanctuaire qui est construit sur le mont Garizim en Samarie, un conflit très fort va opposer ceux de Jérusalem et ceux de la Samarie, c'est-à-dire le cœur de ce qu'était le royaume du Nord. Conflit qui vient donc de très loin, puisque ce n'étaient pas des mêmes peuples, des peuples différents, et qui renaît à cette époque-là, même si les gens de Samarie ont adopté le Dieu d'Israël, le conflit restera très fort. Vous en avez des échos dans l'Évangile. Jésus qui s'adresse à une Samaritaine. Et l'ennemi, c'est le Samaritain. Le bon Samaritain, justement, c'est montré que l'ennemi aussi, le numéro un de ceux qui vous font face et qu'on n'aime pas, sont meilleurs que vous. Dans l'Évangile, il y aura vraiment encore cette tension forte, cette haine entre les gens de Samarie et les gens de Judée, les hasards de l'histoire faisant que la Haute Galilée, la Galilée, reste au fond davantage en lien avec la Judée. Mais c'est des hasards de l'histoire après le 5e siècle, c'est beaucoup plus tard. Ça marche, ça ? Au sud, l'avantage du sud, qui est un tout petit pays, autour de Jérusalem, et un pays pauvre. Le désert n'est pas loin. Il n'y a pas grand-chose à cultiver si vous êtes allé. Maintenant, tout est irrigué, mais enfin. Il a quand même pour force une dynastie stable. Ça change les choses. Pas de coup d'État, ça va durer 4 siècles, au moins. Et une capitale, reconnue par tous, Jérusalem. La vie de ce royaume est quand même sans arrêt menacée par le voisin assyrien. Entre les deux, il y a le nord qui fait État tampon. Mais ça ne va pas durer longtemps. Ça va durer jusqu'en 721. Et puis les Assyriens, s'ils avaient des visées vers le sud, c'est qu'ils voulaient aller jusqu'en Égypte. Donc ils voulaient traverser. Donc on va être tout le temps sous la menace de l'Assyrie. Alors je cible quelques rois très importants. Quelques rois très importants. D'abord, il y a eu ce roi Akaz, qui n'est pas nommé ici, mais dont je vous ai dit qu'il était celui qui avait été sollicité par ceux du Nord pour combattre la Syrie, qu'il avait refusé, qu'il s'était retourné vers les Assyriens, que ça n'avait pas plu à son conseiller, prophète conseiller Isaïe. Et après lui, associé d'abord à son pouvoir depuis déjà une dizaine d'années, le roi Ézéchias, qui devient vraiment roi à la mort de son père en 716 et qui va rester longtemps roi jusqu'en 687, et qui est celui qu'Isaïe annonce comme l'Emmanuel. La jeune reine va enfanter, en fait elle a déjà enfanté, c'est au moment où Ézéchias monte sur le trône, et elle va avoir un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et ça, cette prophétie, cette annonce d'Isaïe, cette demande d'Isaïe, elle est bien située en 716 avant Jésus-Christ. Ce qui est évidemment assez extraordinaire, les évangélistes en empareront pour parler de Jésus. Isaïe va accompagner Ézéchias dans les tribulations de son royaume, qui vont consister à passer son temps à essayer de se garder des Assyriens. Tantôt à se révolter, tantôt à faire profil bas et à payer l'impôt, tantôt à aller chercher de l'aide en Égypte, qui n'en donne jamais. L'Égypte, c'est toujours ceux à ce moment-là vers qui on se tourne en espérant, parce que c'est les grands ennemis des Assyriens, les Assyriens veulent battre. On espérera toujours que l'Égypte va sortir de chez elle pour vous donner un coup de main. Jamais. Elle ne fait jamais ça. C'est illusoire, déjà Osée le disait. Illusoire. En tout cas, les rois de Juda, alors on appelle ce royaume le royaume du Sud, ou le royaume de Juda, parce que c'est la tribu de Juda essentiellement. Benjamin, c'est tout petit, d'accord ? Les rois, le roi Ézéchias est donc sans arrêt en but à la Syrie jusqu'au jour où le roi assyrien Sennachérib vient mettre le siège devant Jérusalem, qui n'est pas le but de son entreprise. Hein. Le but, c'est d'aller beaucoup plus au sud. Il passe par là, il faut qu'il s'assure du passage. Et le siège vers Jérusalem, on a de nombreux récits de ce siège dans le livre d'Isaïe et des récits correspondants dans le livre des rois. Dans le deuxième livre des rois, on a le même texte qui se reproduisent. Isaïe le raconte deux fois, de façon différente. On ne sait pas bien ce qui s'est passé. Il est certain que Ézéchias a été paniqué, que Isaïe a essayé de lui dire de tenir bon et vraiment de ne pas faire profil bas. Et qu'au fond, il est arrivé quelque chose, c'est que alors que le siège était bien installé et que ça allait mal se finir, une nuit ou un jour, les Assyriens ont levé le camp et sont retournés chez eux. Alors, si vous regardez ça du point de vue de la Bible, c'est formidable. Isaïe avait dit qu'il devait tenir bon, que Dieu interviendrait. Eh bien, Dieu est intervenu. Il a envoyé l'ange de la peste tuer tous les Assyriens la nuit. Et donc, ils ont fichu le camp pour ne pas mourir tous. Si vous lisez les annales assyriennes, il y a un tout autre point de vue. Il y a Sennachérib qui était parti pour eux. Gagner du terrain vers le sud, avancer vers le sud. Et pendant ce temps, évidemment, à Assur, il y a ses fils qui ont comploté pour prendre le pouvoir. Que peuvent faire des fils s'ils n'ont profité de l'absence de leur père ? Moyennant quoi, le Sennachérib, quand il apprend ça, vous comprenez bien que Jérusalem, c'est sympa, mais que l'Empire, c'est autre chose. Et donc, il a levé le camp en vitesse, il le dit, pour regagner sa capitale et reprendre son pouvoir sur ses fils, qu'il a d'ailleurs éliminé. Voilà. Donc, deux récits différents, vous choisirez celui qui vous voudrez, chacun raconte l'histoire à sa manière. Peut-être qu'au fond, le récit de Sennachérib dans les annales assyriennes est à la plus grande gloire du roi. On ne sait pas, hein. Est-ce que c'est vrai ? Les historiens se trouvent avec ça et se dépêtrent de tout ça. Toujours est-il que, alors que la menace avait été rude, le royaume du Sud est reparti pour 100 ans. Et Ézéchias est considéré comme le grand roi. Alors, il a fait une réforme religieuse, il a remercié le Dieu d'Israël, le Seigneur, et il a effectivement demandé que partout, on honore le Seigneur et qu'on abandonne les autres dieux. Après, il y a eu des rois qui ont plus ou moins cédé. Alors, après ça, l'influence, tout au cours du 7e siècle, les influences ne sont plus venues d'Assyrie qui a subi un affaiblissement continu à la Syrie. Le dernier des rois assyriens, c'est vers 612, Assurbanipal, qu'on connaît sous son nom, aujourd'hui, enfin francisé ou latinisé, de Sardanapale. Et vous avez un immense tableau de Delacroix, je crois, la mort de Sardanapale, il se suicide, il y a des richesses partout, enfin, c'est formidable. Bon, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais c'est un royaume qui va être en décadence, ce qui permet au petit royaume de Juda de survivre et de grandir un peu. Il va y avoir comme influence beaucoup, beaucoup, l'influence des cultes de la nature, des Baals qui sont toujours là. Ougarit qui a ses Baals, ça s'appelle le maître, le seigneur. Et qui vont concurrencer dans ces populations paysannes, évidemment, le dieu d'Israël, avec des sanctuaires un peu partout, etc. Et donc, on arrive à 640, où affaiblissement de la Syrie, pouvoir un peu plus grand du royaume du Sud, c'est le jeune roi Josias qui va monter sur le trône à 9 ans, et qui, non, oui, un peu plus tard, il monte vers 630, mais qui va mourir assez tôt, mais qui, pendant une trentaine d'années, va lancer dans le pays une grande réforme centralisatrice et religieuse. Combattre tous les cultes de la nature, tous les sanctuaires à Baal et à ses Asherah, qui sont les déesses parèdres, et recentrer tout sur le temple de Jérusalem et sur le Dieu d'Israël. Ça marche ? Alors, l'histoire veut que pendant le règne de Josias va apparaître le prophète Jérémie, vont apparaître des rois, d'autres prophètes comme Sophonie, Michée, etc. Mais l'histoire veut surtout que pendant que Josias entreprend une grande réforme religieuse, ferme les sanctuaires, dont le sanctuaire de Silo dont on a parlé ce matin et d'autres sanctuaires locaux, pour tout concentrer sur Jérusalem. Tout le culte se fera à Jérusalem. Et veut reconstruire le temple de Jérusalem un peu en ruine, donc il lance une grande entreprise de rénovation du temple. L'histoire veut que les ouvriers du temple tombent sur un rouleau, en enlevant les décombres et tout ce qui encombre. Ils tombent sur un rouleau, et qu'en lisant ce rouleau, on va le lire, on s'aperçoit que ce rouleau vient du nord, on va le porter chez une dame immigrée qui avait échappé, dans le groupe qui avait échappé au massacre du Nord, qui était encore là ou qui était dans les descendants de ceux du Nord, une prophétesse. Et cette dame, cette prophétesse, dit « C'est bien le rouleau de la loi de Dieu que nous avons rapporté. » Il semble bien que, d'après ce qu'il en est dit, que ce rouleau soit déjà le texte du cœur du Deutéronome, des chapitres 12 à 26 à peu près, avec la grande partie législative de loi du Deutéronome, non pas les discours de Moïse, mais la loi. Qu'en est-il de cette belle légende que le Deutéronome vient probablement des traditions du Nord, que la découverte tombe à point pour appuyer la réforme religieuse de Josias? Est-ce que Josias a découvert le rouleau ou l'a fait réécrire à ce moment-là? Personne n'est allé le lui demander. Il est évident que ça tombe trop bien pour être vrai. Peu importe. Ils ont retravaillé, exhumé, mis à l'honneur à ce moment-là, un texte qui est donc un des plus anciens de la Torah, au point de vue de sa totalité, le centre du Deutéronome, dans cette réforme religieuse et centralisatrice. En même temps, le Josias, puisqu'il y avait affaiblissement des Babyloniens, il avait le grand rêve de refaire un Israël uni, de remonter vers le nord. D'ailleurs, les mauvaises langues, mais ce sont des exégètes israéliens, disent que Josias a le même nom que Josué. Josias, Josué, Jésus, c'est tout le même nom en hébreu. Donc il se prenait pour un nouveau Josué. En tout cas, ça s'est très mal fini, cette affaire, parce qu'il n'a plus affaire, Josias, aux Assyriens, mais à ceux qui ont d'ores et déjà abattu les Assyriens et pris leur place, et qui, alors que les Assyriens étaient en décadence, sont absolument agressifs et combatifs, les Babyloniens, avec le roi célèbre que vous connaissez tous, Nabucodonosor. Et donc, c'est à ce gars-là que Josias va avoir affaire, avec des histoires compliquées, il veut aider les Égyptiens, il ne veut pas, en tout cas. Il y a une bataille, et Josias, à 34 ans ou 39 ans, meurt à la bataille, et tous les espoirs d'Israël tombent. Ça va ? Après, il y a 10 ans, entre 609 et 588, d'histoire épouvantablement compliquée. Parce que ce sont les fils et petits-fils, fils et petits-fils de Josias, qui vont menacé sans arrêt par les Babyloniens, prendre le pouvoir et essayer d'échapper à l'emprise des Babyloniens et aux tribus qu'ils imposent, se tourner sans arrêt vers l'Égypte, qui va bien venir quelquefois avec quelques bataillons, mais ça ne sera jamais sérieux, et c'est de plus en plus sous la botte babylonienne que le pays tremble et vit. Ça marche ? Avec un Jérémie qui dit « ça suffit, ça suffit, ça suffit, payez l'impôt et arrêtez de vous battre, faites profil bas ». On a dit « c'est un traître, c'est un collabo ». Ouais, peut-être, peut-être. Parce qu'il dit qu'il faut céder aux Babyloniens, mais il ne dit pas qu'il faut céder pour que les Babyloniens vous écrasent, il dit qu'il faut payer. Payer et qu'ils vous laissent la paix. Enfin, les analyses de Jérémie, collabant ou pas, sont justes. Ça se terminera par un siège de Jérusalem, un premier siège de Jérusalem en 598, où, après la mort d'un fils de Josias, son petit-fils, qui monte sur le trône, a l'intelligence de se rendre avec sa cour, de se livrer aux Babyloniens en disant « Vous protégez mon peuple et ma capitale, et moi, je me rends. » Et donc, il part, c'est un premier exil. On considère qu'il y a 800 ou 1000 personnes qui sont parties à Babylone avec le roi Joïakin. Voilà. C'est compliqué, hein, l'histoire de ce moment-là. Ils partent à Babylone, premier exil. Les Babyloniens nomment un autre fils de Josias sur place, qui va évidemment faire que des bêtises, avec Jérémie qui lui dit sans arrêt « ça suffit, ça suffit, ça suffit ». Mais Jérémie, on le met dans une fosse et il est sorti de justesse de la fosse où il s'enlise. Jérémie, c'est le trouble-fête qu'on ne veut pas voir, celui qu'on déteste. Et donc, on continue à comploter contre les Babyloniens. Et donc, presque 10 ans plus tard, les Babyloniens reviennent au siège de Jérusalem. Et là, il y en a marre, ils détruisent la ville et le temple. On brûle tout, parce que ça suffit. Et là, il y a un deuxième départ à l'exil. On ne sait pas bien combien ils ont emmené. Dans les décomptes, il semble qu'ils sont quand même partis 8000 personnes. Ce qui est beaucoup. 8000 personnes. Ce qui est beaucoup. Ce qui est en gros toute la tête de la société. Toute la tête de la société. La cour était déjà partie. Mais là partent les prêtres, les scribes, les artisans. Parce que la richesse d'un pays, à l'époque, ce sont ces, bien sûr, c'est les paysans, mais ceux-là, ils ne bougent pas, sauf chez les Assyriens. Mais c'est ceux qui savent lire et écrire, les scribes, et c'est ceux qui savent faire, les artisans. C'est la grande richesse d'un pays, le savoir-faire artisan. Et donc, ils embarquent tous les artisans. Donc, ils vident le pays des forces, j'allais dire des forces vives, des forces de progrès, et surtout de cette élite religieuse qui tenait tant au Dieu d'Israël et à sa loi. Donc, on a, en 587, la chute définitive du royaume du Sud. Et donc, il n'y a plus de terre. Israël, ou ce qu'il en restait, n'a plus de terre. N'a plus de terre, n'a plus de temple, n'a plus de roi. C'est fini pour les rois. Même s'il y aura... Alors, je vais raconter après. Mais c'est fini quand même pour les rois. N'a plus de culte. Plus de terre, plus de roi, plus de culte. La grande réforme centralisatrice a fait que tout a disparu en même temps. Et ils sont emmenés là-bas à Babylone, tandis que restent sur place les paysans qui vont, je vous l'ai dit, continuer à vivre en se fondant dans la population environnante. Alors, avant d'aller à Babylone, un petit mot sur la littérature de l'époque. Les grands prophètes, j'ai parlé d'Isaïe, qui accompagne la politique du royaume du Nord de 735 à 700, et Jérémie. Les prophètes, c'est des hommes politiques, hein, c'est des analyses politiques qu'ils font tout le temps. Ça, nous, on a oublié ça. On voit les prophètes, bien sûr, c'est la loi de Dieu. Mais ce n'est pas la loi de Dieu qui plane comme ça au-dessus de la tête des gens. C'est la loi de Dieu en tant qu'elle doit s'incarner dans des choix politiques. Et ça, c'est très important. On ne le dit jamais assez. Les grands prophètes d'Israël, Isaïe, c'est un personnage de la cour. Jérémie, c'était un personnage de l'entourage du secrétaire royal Shaphan. Et c'est cette famille qu'il a défendue jusqu'au bout alors que les rois essayaient de l'écraser. Les prophètes sont des gens politiques qui parlent au roi. Et la grande image, la grande situation de cette époque qui doit nous faire réfléchir, c'est cette tension constante entre l'institution royale qui va disparaître et la prophétie qui critique et dénonce et voudrait orienter autrement l'institution royale. on n'en est pas sorti. Hein. Dans l'histoire de l'Église, il y aura tension permanente entre l'institution et le pouvoir et les prophètes qui se lèvent de siècle en siècle, un François d'Assise, un Luther, etc. Un Ignace de Loyola, un Luther, les prophètes se lèvent. Donc gardez ça en tête, le roi, le prophète, en vis-à-vis, mais étroitement lié. Étroitement lié. Bon. Qu'est-ce qui se passe aussi au point de vue littérature? Je vous l'ai dit, les traditions du Deutéronome sont intégrées et relues, et on a, à cette époque-là, des annales royales qui ont été conservées et qui seront emmenées à Babylone et qui seront intégrées dans les livres des rois. Elles sont emportées, il y a déjà des écrits donc propres du pays. Alors, ce n'est pas des annales trifouillées, mais il y a quand même des récits et des successions qui nous permettent de connaître effectivement les vraies successions des rois. Et puis, il y a de la littérature plus générale, la littérature du temple, des psaumes, quelques-uns, et la littérature des proverbes, la sagesse populaire. Alors, je m'installe à Babylone et après, je vous lâche. Enfin, je réponds à vos questions, mais je vous lâche. On s'installe à Babylone pour, alors, 597 ou 587, comme vous voulez. Si vous tenez aux 50 ans, vous mettez 587 et vous avez les 50 ans. Sinon, il y en a 60, et comme en fait, ils sont rentrés que vers 520, vous pouvez même en mettre 70, ça n'a pas d'importance. Le chiffre court dans la Bible, mais il y en a plusieurs. C'est un traumatisme énorme. Là, c'est vraiment le trou qu'on a vu en Genèse 11, après les violences de l'humanité et les peuples avant qu'Abraham apparaisse. Le trou qu'on a vu au début de l'Exode, quand la population va disparaître, ne sont que des reflets, relectures dans le passé, projections dans le passé du traumatisme et du trou qu'ils ont vécu à Babylone. Ils sont exilés, tous les repères ont disparu. La royauté, la terre, le temple. La royauté, pas tout à fait. Alors que les Babyloniens ont mis à Jérusalem un autre fils de Josias qui va être un fantoche, le petit-fils qui est parti à Babylone va toujours être considéré comme le véritable roi d'Israël, de Juda. Et il va manger à la table du roi babylonien. Enfin, il est quand même prisonnier, complètement prisonnier. Mais il va quand même être honoré. Il aura probablement une descendance. Et il y aura un petit moment, au moment du retour, l'espoir que son fils Zorobabel va pouvoir restaurer la royauté. Et puis, il disparaît dans le long chemin du retour, le Zorobabel disparaît. Donc, la royauté, de toute façon, va disparaître, même si elle se prolonge un peu. La terre, elle, pour le moment, a disparu. Le temple, c'est sûr. Et avec le temple, le culte et les relations avec Dieu, qui étaient centralisées sur le temple de Jérusalem avec Josias. Et la question, est-ce que Dieu aurait abandonné son peuple? Est-ce qu'il s'agit du châtiment pour tant de trahisons, pour tant d'abandon, pour tant d'idolâtrie, pour tant de mauvais choix? Est-ce que Dieu a abandonné son peuple? Et ils ont certainement tourné en rond sur cette question entre eux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un certain nombre, beaucoup, ils se sont installés. En fait, l'exil à Babylone, on le lit évidemment comme un exil, et c'en a été un. On le lit comme un traumatisme, et c'en a été un terrible. Puis sur le chemin entre Jérusalem et Babylone, il faut passer par le nord. Sur le chemin, il a dû en mourir quelques-uns. Hein. Il ne voyageait pas en avion ni en TGV. Bon, voilà, à pied. Donc, ceux qui avaient survécu, et il y en avait beaucoup, se sont installés, et comme ils avaient une force de vie qui avaient traversé les déserts, ils se sont mis à vivre, ils ont essayé de s'intégrer, ils ont fait du commerce, etc., ils sont enrichis. Et puis, il y avait tous ceux qui avaient une forte culture religieuse, qui avaient emmené, et la cour, qui avaient emmené avec eux les annales royales, le livre du Deutéronome, les livres des prophètes, qui avaient emmené avec eux leurs traditions orales et écrites, qui avaient sauvé ça. Et ceux-là ont répondu à la question, Dieu nous aurait-il abandonné par non? Dieu ne nous a pas abandonnés, on va relire cette aventure une fois de plus comme effectivement une traversée du désert, mais on en a eu d'autres dans le passé, et on va essayer de comprendre à quoi Dieu nous appelle dans cette affaire-là, en affirmant que Dieu ne nous a pas abandonnés et qu'il nous accompagne. et on va se reconstituer, au moins un petit nombre, au moins le noyau dur, mais ils étaient là. Alors Isaïe parlera d'un petit reste. On va se reconstituer autour de quoi ? Pas grand-chose, hein ? Eh bien, essentiellement autour de ce qu'on avait rapporté. C'est-à-dire qu'on s'est mis à rassembler des traditions écrites et orales, des livres, des rouleaux, ils avaient des rouleaux, et qu'ils ont commencé à réécrire, à refaire un roman national pour essayer à faire, pour essayer de comprendre le dessein de Dieu dans l'histoire, qu'il ait mené à travers ce désert et ce moment terrible de disparition vers une alliance autre, voilà, vers une renaissance. Ils ont cru à ça et ils ont œuvré à ça. Dieu ne nous abandonne pas. On a parlé de repli identitaire, bien sûr. Il fallait survivre. Il fallait survivre au milieu d'une population où on était quand même immigrés, exilés, quelque part déportés, qui était riche et donc où il y avait possibilité de s'installer et de s'enrichir, mais enfin qui n'était pas là pour non plus pour vous accueillir à bras ouverts. Et donc, ils se sont serrés les coudes et ils se sont repliés autour de leurs traditions et de traditions qu'ils ont créées et de fêtes et de cultes qu'ils ont remises à jour, réinventées, etc. Ça va ? Et c'est là, au fond, je vais passer une diapo, je reviendrai après, et c'est là, au fond, qu'on a quelque chose qu'on va appeler ensuite la naissance du judaïsme, qui se fera surtout dans le retour de quelques-uns, quand Cyrus, le roi des Perses, 50 ans après, va leur permettre de rentrer, mais qui est déjà à l'œuvre dans ce creuset de l'exil. Voilà. C'est là que se constitue ce rassemblement de traditions qu'on continuera à peaufiner, mais qu'on met déjà au point. C'est là que se constituent les grandes fêtes comme le Kippour, la fête de la demande de pardon. C'est là probablement que se met en place la circoncision le 8e jour, parce que dans les peuples environnants, on ne circoncisait pas partout, mais dans beaucoup, on circoncisait à l'adolescence, comme ça se fait encore dans certaines populations, comme un rite de passage, d'initiation à l'âge adulte, avec évidemment des dégâts considérables et des morts par infection. Et donc, ils ont décidé que par différence, et pour être à part, ils circoncieraient les enfants le 8e jour. Paul le dira, hein, circoncis le 8e jour, Jésus est circoncis, etc. Un signe de différenciation. Il fallait se différencier. Finalement, ce qu'il apparaît, c'est que le danger des Babyloniens était moins qu'on soit mal accueilli à Babylone que d'être trop bien intégré. C'est des gens qui avaient quand même une force d'intelligence, une force de vie et des capacités, les artisans, énormes. Et donc, s'intégrant, eh bien, bah, voilà, ils s'installaient, ils s'enrichissaient. Jérémie leur avait écrit, bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des arbres, mangez-en les fruits, des vignes, buvez-en le vin, ayez des enfants, élevez-les, vous restez à Babylone pour quelque temps. Jérémie leur avait écrit et ils l'ont fait, mais le problème c'est qu'à s'intégrer, on risque de s'intégrer trop et de perdre, et ben, de perdre quoi ? De perdre son identité, de perdre sa foi dans le Dieu unique, avec quand même l'idée, celui-là, s'il ne nous a pas défendus, c'est peut-être que les dieux babyloniens sont meilleurs. Mais c'est la grande idée dans les peuples anciens. Le bon, le Dieu, le vrai, c'est celui qui gagne. Et là, il a perdu. Et donc, il fallait, malgré ça, et malgré toutes ces tentations, garder une identité forte. Eh bien, ils l'ont fait. Et on considère que c'est là le creuset du judaïsme. Alors, avant de finir, parce qu'on reprendra ça la prochaine fois, avant de finir, je voudrais réfléchir sur, au fond, qu'est-ce qui s'est passé théologiquement, comment théologiquement, si on relit tout ça, ils ont répondu à ce moment si difficile, à ce trou. Il y a eu diverses réponses. Et les diverses réponses vont se combiner dans la Bible. Ce sont ces diverses réponses qui vont donner au retour le texte de la Torah qui se fixera à ce moment-là. Il y a eu d'abord la réponse des prêtres, qui va être majoritaire, mais pas la seule, qu'on va appeler la théologie sacerdotale, pour affirmer que le Dieu d'Israël ne les avait pas abandonnés, ce Dieu qui est affirmé à ce moment-là comme non plus seulement notre Dieu, mais le Dieu unique. Ce n'est pas parce que nous avons perdu qu'il nous a abandonnés. Ils vont dire, Dieu a passé, conclu avec nos pères une alliance éternelle. Parce que de toute façon, ce que Dieu fait est éternel. Que Dieu se définit par sa fidélité. Dieu est le rocher. Amen, c'est ce sur quoi on peut tabler, ce qui ne bouge pas. Donc ce Dieu créateur, il est fidèle et sauveur. Et donc, il est toujours capable, malgré les échecs, malgré les défaites, de recréer son peuple. Pourquoi, dit le grand prophète Ézéchiel, qui est un grand prophète de l'exil, non pas pour vous, parce que vous êtes tellement moche que ça n'en vaudrait pas la peine, mais Dieu va quand même refaire alliance et vous recréer. Pourquoi ? Pour l'honneur de son nom. Quand on lit Ézéchiel, on a un petit moment où il est énervant. Ce Dieu qui est là, je vais vous reprendre, je vais faire ceci, je vais faire cela, et tout ça, ce n'est pas pour vous parce que vous êtes trop nuls, c'est pour l'honneur de mon nom. On se dit, pff. Quand on y réfléchit, c'est génial. C'est génial. Ça veut dire, vous enfoncez pas dans votre culpabilité et dans vos péchés, dans votre repentir. De toute façon, vous êtes nuls. Pas peine d'aller chercher plus loin. Et de toute façon, malgré cette nullité, Dieu ne vous abandonnera pas. Pourquoi ? Parce que c'est sa fidélité à lui, l'honneur de son nom. On peut en penser que ce qu'on veut, c'est assez fort comme idée. Vous êtes au fond du trou, restez-y. Il va vous sauver quand même, pour l'honneur de son nom. C'est la réponse de la théologie sacerdotale. Vous verrez l'alliance éternelle, l'alliance perpétuelle qui est passée par Dieu, conclue par Dieu avec Abraham. Et là, on constitue la généalogie des patriarches. À côté des prêtres, il y a les scribes. Les scribes, c'est au fond les intellectuels, les docteurs de la loi, ceux qui, au fond, avaient été restés du côté des immigrés du Nord, ceux qui s'étaient attachés à la tradition du Deutéronome et à la partie éthique de la loi d'Israël. Et les scribes, eux, vont relire l'histoire en disant « Oui, il y a bien un Dieu qui fait alliance, mais il y a une condition à cette alliance, comme ce que le suzerain fait avec ce vassal, avec son vassal, c'est que vous respectiez sa loi. Et donc, il y a une relecture de l'histoire qui dit, ben voilà, c'est le châtiment. C'est ce qu'on appelle la théologie de la rétribution. C'est sinistre. Vous avez mal fait, Dieu vous punit. Si Dieu vous punit, c'est que vous avez mal fait. Alors, c'est pas vrai. Les deutéronomistes ont plusieurs courants. Ils insistent sur cette théologie de la rétribution, mais ils affirment que de toute façon, Dieu, pas seulement créateur, il est sauveur. Et il va sans arrêt vous retendre la main et reproposer son alliance, en demandant toujours une réponse éthique. Ça va ? Les prêtres demandent une réponse cultuelle. Toutes les années, à Kippour, on va faire mémoire de l'alliance éternelle, perpétuelle de Dieu. On va se repentir du cœur, hein, pas simplement visiblement. On va faire des rites, bien sûr, il y a un culte, mais un vrai repentir, une vraie repentance. Et Dieu va renouveler son alliance, réponse quand même cultuelle. Les deutéronomistes disent non, c'est votre cœur qu'il faut changer. Réponse éthique. Dieu renouvelle, mais il faut répondre en vous conduisant autrement. Et puis il y a les prophètes qui sont très marqués par le courant deutéronomiste. Souvent les deutéronomistes ont réécrit des choses des prophètes, mais qui sont quand même les grands prophètes, Jérémie, Ézéchiel, et cette seconde partie du livre d'Isaïe, du chapitre 40 au chapitre 55, qu'on appelle le Deutéro-Isaïe, qui eux commencent à dire, et c'est caractéristique par Jérémie, oui, le cœur de l'homme est pourri. Une panthère peut-elle changer de peau ? Non. Et vous, les habitués du mal, vous pourriez faire le bien ? Impossible. Eh bien, Dieu va vous recréer. Il va mettre en vous son esprit, il va créer un cœur nouveau. C'est le grand oracle de Jérémie 31-31 qui est réécrit à Babylone en lien avec les deutéronomistes. C'est le grand oracle d'Ézéchiel 36. Hein ? Je vais vous laver avec une eau pure, je mettrai en vous mon esprit. J'arracherai votre cœur de pierre, donc un cœur qui ne peut pas se convertir, qui ne peut pas bouger. Je vous mettrai un cœur de chair, un cœur capable de me répondre. Je mettrai en vous mon esprit. L'idée d'une alliance nouvelle, le mot apparaît une fois dans Jérémie et Ézéchiel est très près, qui est la réponse, au fond, anthropologique. J'écrirai ma loi au fond de votre être. Dieu va changer l'être humain, et c'est ça l'espérance, pour qu'il soit capable de lui répondre et d'être complice de sa volonté. Voilà, vous avez un peu ces trois, on peut préciser, financer, mais il y a ces trois types de propositions de renouveau, d'alliance, qui vont se déployer à partir du creuset babylonien et qui vont réapparaître dans la suite de l'histoire juive et surtout dans le Nouveau Testament avec l'Alliance Nouvelle, puisque notre Nouveau Testament, le mot veut dire Nouvelle Alliance. Ça va ? Voilà, je m'arrête là, bon, parce que c'est l'heure. Est-ce que vous avez des questions ? Vous en avez par-dessus la tête, ben vous rentrez chez vous, mais je reprendrai ça à ce moment-là, la naissance du judaïsme, le 8 janvier, je crois que je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, le 8 janvier, en vous introduisant ensuite au Nouveau Testament. Voilà, passez un bon week-end.